Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sphère, salut Big Rusty. On va parler de quelque chose qui me hype, Kamaru Usman qui l'a donc du coup, et donc ça confirme aussi ce qu'on dit un petit peu sur l'UFC année 2022, peut-être de transition en attendant les grosses échéances. Donc là, il s'apprête au mois d'août prochain à faire une nouvelle défense de ceinture face à Leon Edwards, et après, il a déjà annoncé la couleur Kamaru Usman, sera pas titre middleweight, mais titre light heavyweight, pourquoi pas titre middleweight, vous le savez, il est ami avec Israel Adesanya, il ne veut pas affronter Israel Adesanya, donc plutôt que d'aller en moins de 84, il va aller en moins de 93. C'est annoncé, moi je valide pleinement le projet. Puis avec Rusty, on va se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de complètement fou? Ou alors, a-t-il une chance véritablement? Big Rusty, générique!
Swear!
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150€ offerts sur ton premier pari.
Rust, Kamaru Usman, qui s'attaque au titre light heavyweight, face à, et c'est pour ça que moi je pense que le timing de cette annonce n'est pas anodin non plus, parce que vous vous souvenez, quand il y avait Glover Teixeira, monsieur n'en parlait pas trop. Là, il y a Jiří Procházka qui est champion, il se dit, tiens, il y a peut-être moyen. Toi, est-ce qu'il y a moyen, ou alors c'est complètement dingue de la part de Kamaru Usman, et tu traites cette sortie comme ce que Kamaru Usman dit quand il annonce vouloir affronter Canelo Alvarez?
Ah non, là je pense que ouais, c'est beaucoup plus de l'ordre du réalisable, mais après c'est, la logique elle est pas... Enfin, je la trouve pas si évidente. Parce que tu vois, encore quand Georges St-Pierre était monté en middleweight pour le titre, quand c'était Michael Bisping et que c'était plus soit Whittaker, soit des gars comme ça.
Ou Romero.
Là, t'étais en mode. Ou Romero, ouais, voilà. Là, t'étais en mode. Bon, clairement, là, tu choisis la meilleure fenêtre. Mais bah, là, en l'occurrence, je trouve que. Il aurait peut-être. C'est pour moi c'est équivalent en termes de niveau de danger que ce soit Glover ou Procházka pour un gars comme Kamaru, voire même je pense peut-être que Procházka est plus dangereux que Glover pour Kamaru Usman. Du coup je trouve que pour moi c'est vraiment stylé qu'il le fasse quoi. C'est là vraiment le risque est énorme. Contre Glover c'était le cas aussi, mais c'est vrai que contre Procházka, la raison pour laquelle je dis ça c'est que il est, même si on a vu qu'il était perméable en lutte, il est tellement dangereux debout que tu prends vraiment le risque d'un chaos ultra spectaculaire. Et pour le soumettre, on a vu que c'était quasi impossible. Pour le terminer au sol, on a vu que, et l'y maintenir pendant de longues périodes, on a vu que c'était compliqué, même si Glover y est arrivé. Mais on a sa simple explosivité et, à mêler à sa technique. Mais le fait qu'il soit tellement physique, ça lui permet de sortir de situations... contre Glover Teixeira, donc j'imagine que contre Kamaru Usman, qui serait du coup un cran en dessous physiquement, c'est quand même très dangereux. Donc voilà, tout ça pour dire en résumé qu'effectivement, même s'il choisit le moment où c'est plus Glover Teixeira qui était plus dangereux au sol, etc., c'est pas pour autant que c'est plus facile. Donc impressionnant s'il le fait de la part de Kamaru Usman. Et oui, c'est beaucoup plus réalisable parce qu'une fois qu'il aura battu Leon Edwards, entre guillemets, il en restera Khamzat, c'est vrai, dans l'idée, mais il se rapproche quand même très sérieusement d'avoir fait le tour de la catégorie. Donc, et en plus, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi. Que quelqu'un monte de deux catégories comme ça, surtout quand ce sont des monstres qui l'attendent, c'est vraiment impressionnant.
Mais est-ce que c'est possible, Big Rusty? Parce que c'est surtout ça la question. Dans le sens, ouais, qu'il gagne et qu'il puisse. Parce qu'on sait que Kamaru Usman est hyper imposant pour un welterweight. Il fait 1m80. C'est pas vraiment en taille, mais il fait 1m83, 84 chaque fois qu'on regarde les stats, c'est 1m83. En termes de taille, au niveau poids, il est monstrueux aussi. Mais là, les light heavyweight, souvent quand on en parle avec Rust, on atteint ce côté un peu super humain. Même middleweight, déjà, c'est des gabarits que vous ne croisez pas tous les jours dans la rue. Est-ce que là, donc Kamaru Usman, qui est imposant pour un mec dit normal, face a un monstre physique comme Jerry Prochaska, est-ce que ça peut le faire? Ou toi, tu te dis, il va peut-être se heurter tout simplement à une limite physique dans sa quête du statut de champ-champ?
Bah, en fait, c'est l'éternel, c'est, voilà, c'est ce que tout le monde va rabâcher, mais c'est parce que c'est vrai.
Sachant qu'on a vu le face-off avec Jan Błachowicz, il n'était pas si petit que ça.
Après, je me méfie un petit peu parce que je me méfie énormément des photos où ils ont joué sur l'effet de perspective pour faire grossir les biceps, parce que du coup, tu as un tout petit effet fisheye ou comme ça avec, tu sais, un plan très large et du coup, les deux sont monstrueux. Mais en fait, si tu les prenais entre guillemets à taille réelle et à proportion réelle, ça donne pas la même, ça donne pas la même impression. Donc ça, je me méfie un petit peu. Ce cliché-là, je me méfie un petit peu. Mais bah, y a deux choses. Le premier, c'est que c'est ça va être deux, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, quand c'est, là je vais dire un truc qui sont des portes ouvertes, tu vois, c'est des évidences, je sais plus comment on appelle ça, mais bah, la première, c'est que s'il y a des catégories de poids, c'est qu'il y a une raison, donc la raison pour laquelle Kamaru Usman arrive à rentrer dans la catégorie la welterweight, bah, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il le peut. Demander à Jerry Prochaska de rentrer dans la catégorie welterweight, je pense qu'on va rigoler. C'est-à-dire qu'à moins qu'il vraiment, littéralement, qu'il se coupe une jambe, je pense que c'est impossible. Et il y a une raison à ça, c'est-à-dire que ben, à poids naturel ou en tout cas en termes de capacité physique, ben, c'est pas le même monde. C'est littéralement, c'est pas le même monde. Je me souviens plus, il fait plus d'1m90, c'est sûr, Jerry Prochaska. Il a une carcasse monstrueuse. Dans la vie de tous les jours, il doit être facilement à 105. C'est vraiment pas c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes oiseaux, c'est pas les mêmes monstres. Et la deuxième chose qui est la règle, un petit peu de la règle d'or, c'est, ben, à compétence égale, il y a effectivement le physique qui joue pour donner l'avantage à l'un ou à l'autre. Donc, c'est-à-dire que, à grosso modo, niveau de compétence égal dans les différentes disciplines, bah, si ils ont le même physique, bah, grosso modo, ça fait des combats très serrés. Mais si l'un a un avantage physique certain, qu'il est plus grand, qu'il a plus d'allonge, qu'il est plus lourd, qu'il est plus fort, bah, de manière quasi sûre, à moins qu'il y ait un gros différentiel de mental, mais je mets ça dans le package de compétences quand je dis à compétence égale. Bah, c'est toujours celui qui sera plus physique qui gagnera. Là, c'est de la physique de base. Et on a pas mal d'exemples qui attestent de ça. Donc là, bah, j'ai une petite liste d'exemples qu'on utilise souvent. Il y a quelques contre-exemples, mais les exemples, c'est par exemple Tito Ortiz contre Alexander Schlemenko. J'ai revu le combat tout à l'heure. Schlemenko, qui est un petit middleweight, qui combattait contre Tito Ortiz, qui est un gros light heavyweight. Déjà, la différence physique saute aux yeux, mais les impacts de Alexander Schlemenko quand il met des coups au corps, quand il met des kicks, des trucs comme ça, c'est vraiment, t'as l'impression d'une mouche qui embête un lion, tu vois. Il n'y a aucun impact ou presque, c'est assez impressionnant. Tito Ortiz ne bouge pas, il n'accuse pas le coup, c'est sur des choses comme ça que tu vois qu'effectivement l'effet d'échelle, bah, c'est réel, quoi.
D'ailleurs, Schlemenko qui revient en août prochain face à Jerry. Face à Jacare Souza. Face à Jacare Souza.
C'est vrai ? Ouais. Dans quel organe ?
RCMMA, je crois.
D'accord, putain, intéressant. Ouais. Et les autres exemples qui sont généralement utilisés, c'est Rory McDonald contre Gegard Mousasi, où vous regardez le combat qui s'est passé au Bellator pour le titre middleweight, où Rory McDonald montait d'une catégorie. Bah, clairement, là, c'était vraiment pot de terre contre le pot de fer. Il ne pouvait rien faire. Et après, on a Adesanya contre Jan Błachowicz, on a Dustin Poirier et Max Holloway. Ce qui est très intéressant dans ces quatre exemples qui sont parfaitement représentatifs de, clairement, il a, en français, il a eu les yeux plus gros que le ventre, il a mangé plus que ce qu'il ne pouvait mâcher, pour faire la traduction. Mais c'est que dans ces quatre cas-là, en gros, ce sont des gars qui n'avaient pas forcément pris le temps de faire une vraie montée. Donc là, Max Holloway, on se souvient tous que quand il a combattu Dustin Poirier, alors je ne sais plus si c'était en short notice, mais en tout cas, il n'avait vraiment pas du tout pris le temps,
ouais, c'était
de
cinq
faire
semaines,
une véritable
cinq
montée.
Semaines.
Cinq semaines. Adesanya Błachowicz, bah oui, il a eu un camp d'entraînement, mais il a toujours dit, bah voilà, je vais pas grimper en poids, je vais pas prendre plus de masse, pardon, je vais pas modifier entre guillemets ma carcasse naturelle, donc je vais arriver à 93 kilos tout mouillé, tu vois, tandis qu'on sait que Jan Błachowicz, lui, il doit cutter du poids parce que c'est un vrai light heavyweight. Donc dans tous ces exemples que je viens de donner, en gros, ben, ce sont des gens qui n'avaient pas pris le temps entre guillemets de devenir des véritables des véritables protagonistes de la catégorie supérieure et qui donc sont arrivés avec leur physique de catégorie d'en dessous et ça ne marchait pas, entre guillemets. Et donc on pourrait me répondre, oui, mais les contre-exemples, Georges St-Pierre contre Michael Bisping, on pourrait me répondre Anderson Silva quand il est montré contre Forrest Griffin, Stéphane Bonnard, mais c'est là où personnellement je dirais, ouais, mais là il y avait vraiment un tel différentiel aussi de compétences que ça, c'est là où ça aide un petit peu celui qui monte, c'est qu'il est tellement dans la matrice, on parle de GOAT quoi, enfin Anderson Silva, Georges St-Pierre, voilà, la réponse est dans la question.
Et puis pour JSP, il y avait eu un vrai processus aussi de montée de catégorie qui lui a d'ailleurs valu des problèmes de santé,
pépins physiques. Ouais. Et d'ailleurs, même Georges St-Pierre, pour le coup, lui, il avait voulu vraiment faire une véritable montée en middleweight, mais il l'avait un peu chié, quoi. Il le dit lui-même, quand il était arrivé la semaine de combat, en gros, il devait boire beaucoup plus que de raison et manger beaucoup plus que de raison, se gaver, en fait, c'est le terme qu'il utilisait, pour rester à un poids de middleweight normal qui fait le cutting. Donc, c'est simplement que c'est Georges St-Pierre, quoi. Et c'est simplement que c'est Anderson Silva. Donc, quand il monte, oui, il monte comme ça sur un camp d'entraînement et machin. Mais voilà, ce sont les meilleurs de tous les temps. Donc, le différentiel de compétences est tel que ça marche.
Et dans les derniers gars, il y a aussi, petit exemple après Rusty, c'est reparti, c'est John Jones. Là, on va voir ce qui va se passer quand il fera enfin ses débuts chez lourd. Mais lui aussi, faire un vrai processus de montée.
Voilà, donc c'est là où ce sera très intéressant pour John Jones, c'est que bah là, lui, voilà, il est à, je sais plus ce qu'il disait, mais il est à 115, quoi. Il est à 115, mais 115 d'un vrai poids lourd. Parce que, par exemple, lorsque Jiří Procházka ou Jan Błachowicz sont à 105, 110 hors combat, c'est pas les mêmes 110, 115 qu'un Cyril Gann ou qu'un Stipe Miocic, quoi. C'est pas la même, le même affûtage physique au même poids.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et c'est pour ça que ça va être vraiment très intéressant pour Kamaru Usman, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a un peu élagué tout ça. C'est que bah, y a deux trucs. Le premier, c'est que s'il monte, bah, je serais très curieux de voir s'il monte pour de vrai, entre guillemets, donc c'est-à-dire s'il prend quelque chose comme 6 mois, 6, 7 mois, 8 mois, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est pas beaucoup de différence, mais ça dépend, voilà, s'il prend vraiment le temps de soigner sa transformation physique. Et le deuxième truc qui est quand même très important, c'est que là, tous les exemples qu'on vient de donner, les gens montaient de une catégorie. Lui, il va monter de deux. Alors moi, j'ai pas souvenir que ça a été fait entre guillemets à ce niveau-là, entre guillemets, j'ai pas souvenir. Et là, il y a une prise de risque qui est mais maximale, parce que quand on vient de citer les ouais, t'as vu, donc physiquement, on sentait que les impacts étaient différents et que c'est qu'une catégorie d'écart. Imaginez deux, et surtout imaginez deux lorsque ce sont ces catégories-là, c'est-à-dire les catégories plus élevées. Parce que la raison pour laquelle il y a aussi un peu plus de changement de catégorie sur les catégories de poids plus petites, c'est parce que, un, les différences de poids sont moins grandes. Par exemple, quand tu passes de bantamweight à featherweight ou de featherweight à lightweight, c'est des moins gros différentiels de poids que quand tu passes de welterweight, middleweight, light heavyweight, tu vois. Et donc, il choisit même pas les catégories les plus faciles pour faire un saut, parce que là, du coup, il va passer de 77 à 93, 16 kilos d'écart. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
I don't know, Big Rusty. Mais en tout cas, c'est sur
cette chose. Vas-y. Ouais, non, voilà. C'est donc extrêmement risqué parce que là, vraiment, il va y avoir un différentiel physique monstrueux, un canyon. Et c'est là où on va voir que ben, même si là, il est en train de s'immiscer un petit peu dans la conversation des GOAT, petit à petit, mine de rien, Kamaru Usman. Alors là, s'il monte et qu'il arrive à battre le champion light heavyweight, ça, là, dans son argumentaire, il met un truc, ça va être très difficile d'aller le chercher ensuite, quoi. Par exemple, pour des Hall of Fame, des trucs comme ça.
Et surtout que Kamaru Usman, pour moi, enfin, ce qui serait bien, c'est qu'après la défense contre Leon Edwards, tu vois, l'UFC prévoit ça, tu vois, donc ça va être en août. Peut-être que si l'UFC, tu vois, annonce Super Fight pour le mois d'avril, mai, comme ça, lui, il a vraiment le temps de faire sa montée. Et en plus, je trouve que ce serait pas mal parce que ça permettrait, tu vois, de dire, il y a ce combat-là, ensuite, quoi qu'il arrive, Kamaru Usman redescend chez les welter, et comme ça, on peut très bien faire, moi, ça me poserait pas de souci qu'il fasse un titre intérimaire, par exemple, entre Ramzat et Colby, ou autre, mais qu'il y a un petit peu plus de vie dans cette catégorie, parce qu'on arrive au stade où, même s'il y a beaucoup de monde, le champion est tellement écrasant que tous les contenders ont perdu contre lui, et donc il y a un petit peu moins d'enjeux parce qu'on se dit, bah, le gars roule sur tout le monde, même si on est dans une situation différente de la catégorie flyweight à l'époque de Demetrius Johnson où on connaissait pas trop les rankings. Là, il y a quand même du monde, mais le champion est presque trop dominant. Le seul point, moi, qui m'inquiéterait un peu là-dedans, c'est Kamaru Usman aujourd'hui, il a 35-36 ans. Est-ce qu'il pourrait... On sait que c'est un imposant welterweight, pardon, et que du coup, quand il fait ses cuttings, bah, c'est quand même un peu tendu, même s'il a pas manqué le poids, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais est-ce qu'il pourra, s'il fait une vraie montée chez les light heavyweight, ensuite redescendre tranquillement et pas mettre sa santé et même sa carrière en danger s'il tentait ça? Et c'est le point, moi, qui m'inquiète un petit peu, parce que c'est quand même dans le sens où on sait qu'aujourd'hui il est âgé, qu'il lui reste pas énormément de temps, Kamaru Usman, mais c'est pas non plus quelqu'un, quand vous le voyez combattre, vous dites, il est sur le déclin, il est pas sur le déclin, mais ce serait bête, tu vois, de jouer à ça et de sacrifier 3-4 bons combats que pourrait avoir Kamaru Usman au profit d'un seul challenge qui est quand même assez important.
Bah ouais, c'est ce qui est très souvent cité comme exemple, c'est Roy Jones Jr. que lorsqu'il était monté de catégorie pour aller jusqu'en heavyweight battre. Fuck! Putain, j'oublie toujours son nom.
C'était pas James Toney qui l'avait battu?
Non, c'était pas James Toney. J'ai oublié. Mais en tout cas, lorsqu'il était. Ouais, lorsqu'il était redescendu ensuite, bah, c'est là où ça avait commencé à se compliquer vraiment beaucoup. Et c'est là où. C'est depuis l'exemple, un peu le cas d'école qui est utilisé pour dire. Bah, monter ou descendre, c'est une chose, mais faire le yo-yo, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et bah, c'est pour ça que moi, je serais d'avis aussi que s'il y va, bah, autant qu'il y aille, mais pour de bon. Et puis là, il est en moment de sa carrière où il peut largement, tu vois. Et puis, ça dépendra de ce que fait Desanya, mais pour un peu... ouais, voilà. Soit
John
Ruiz. Ah bon ?
Ouais, pour le titre WBA Heavyweight.
C'est quoi les autres adversaires qu'il a combattu en heavyweight ?
En heavyweight, bah, poursuivez Big Rusty, je poursuis mes recherches.
Et du coup, s'il fait la transition, clairement qu'il la fasse à fond. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaiterais. Parce que bah, j'ai pas envie qu'on se retrouve dans cette situation où il est en mode. Ce qui serait louable, un peu à la japonaise, esprit chat, samouraï et tout, de dire bah, je vais même pas faire une vraie montée en light heavyweight, je vais juste ne plus cutter de poids et puis m'entraîner un peu plus avec des plus gros poids, ou je sais pas, tu vois, je sais pas comment est-ce qu'il compte faire. Pas s'entraîner avec des plus gros poids, ça a pas forcément beaucoup de sens. Mais. Mais voilà, ouais, c'est soit il le fait à fond pour light heavyweight et il devient un vrai light heavyweight, même s'il est petit du coup pour un light heavyweight, 1m83, c'est vraiment pas énorme. Soit qu'il ne le fasse presque pas, mais j'aurais pas envie qu'on soit dans une situation comme des exemples qu'on a cités précédemment où bah, il devient humain à nos yeux, mais tu sais, vraiment presque trop humain en arrivant avec sa carcasse de welterweight et on sent qu'il peut rien faire, tu vois. Ça, ce serait tellement terrible pour sa legacy que je préfère ne pas le voir, quoi.
Entièrement d'accord, Big Rusty. Concernant Roy Jones Jr., pour finir cette parenthèse, toi, tu parlais de défaite qu'il avait eue ?
Non, quand il est monté en heavyweight, il y a un gars qu'il a affronté et qui est le gars le plus souvent cité, et c'était pas John Ruiz, donc... Est-ce que tu peux me faire une petite liste des gens qu'il a affronté en heavyweight?
Pour moi, c'était John Ruiz, parce que là, je suis en train de regarder. Il y a peut-être... parce qu'il y a les défaites contre Antonio Tarver.
Ouais, c'est ça, Antonio Tarver. Mais attends, il a gagné.
Bah oui, mais c'est pour ça. Donc, c'est ce que je me disais aussi. Non, c'était en light heavyweight. Et justement, c'est quand il fait son retour ensuite.
Ah, c'est ça.
C'est ça. En fait, il avait gagné, ensuite il est revenu. C'est pour ça que je me disais...
You are right.
Voilà. Et oui, et justement, c'est faire le yo-yo qui malheureusement a posé des soucis sur la fin de sa carrière à notre cher Roy Jones Jr.
Putain, quelle carrière de légende quand même, Roy Jones.
Mais oui, peut-être trop longue malheureusement pour lui. En tout cas, ouais, pour Kamaru Usman, moi je sais pas trop, je pense, j'aimerais quand même bien qu'il prenne le temps parce que C'est pas, on n'est pas en mode Anderson Silva, parce que c'est ça aussi, enfin, il convient de dire, c'est qu'Anderson Silva, c'est l'un des plus grands, mais quand il était à chaque fois en light heavyweight, il n'a jamais affronté le champion aussi, tu vois. Et là, j'ai pas envie que Kamaru Usman, au regard de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du sport et au regard du challenge, qu'ils prennent ça, entre guillemets, à la légère, tu vois. Qu'ils prennent le temps, qu'ils l'affrontent, et puis qu'il n'y ait pas même de truc où on puisse juste dire... Ah bah c'est juste que Jiří Procházka était trop grand. Enfin tu vois, je trouve que ce serait un... ça servirait personne, tu vois. Alors que si Jiří Procházka bat un vrai Kamaru Usman qui est en mode light heavyweight, il y a pas de souci. Enfin tout le monde sera OK, c'est bien pour c'est bien et puis pour Kamaru Usman en cas de victoire, ce sera encore plus grand, tu vois. Donc en tout cas, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, je trouve que le challenge de la part de Kamaru Usman est assez fou.
C'est excitant.
Et s'il venait à le faire, mais là enfin ça fait partie, tu vois, de ce genre.
C'est ce qui nous manque.
C'est ce qui nous manque, peut-être. Bah, vas-y, Big Rusty, n'hésite pas à dire qu'est-ce qui nous manque exactement. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est le genre de challenge où tu ne peux pas détester un mec qui tente de faire quelque chose comme ça. C'est impossible.
Bah, c'est ce que disait Adesanya. I dare to be great. Avant de perdre contre Blachowicz. Mais donc, il a raison, tu vois. Enfin, oser des choses qui, si tu les réussis, feront de toi une figure inoubliable du monde des sports de combat, tu vois. Et là, clairement, c'est ça. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle Connor est devenu Connor, quoi. C'est, il s'en fout. Il affronte n'importe qui, n'importe quand. Il monte de catégorie s'il le faut. À un moment donné, il s'en bat les couilles. Il est en mode, bon, vas-y, je vais même monter en welterweight, ça m'est égal. C'est ça qui fait que les gens deviennent aussi légendaires. Et bah, pour Adesanya, c'est ce qui a fait que tous les gens étaient en mode, bah ouais, ok, il a perdu, mais énorme respect. Et c'est ce qui fait que là, t'imagines la prise de risque maximale de monter de deux catégories. Déjà, c'est extrêmement excitant. C'est un, tu vois, il y avait un moment donné quand Connor raflait tout, on était en mode ouais, il est en featherweight, mais là, il est en train de faire des bifs avec Tyron Woodley. Hey, il pourrait peut-être mettre KO Tyron Woodley. Enfin, tu vois, ça, même si, en fait, après coup, peut-être que non quand même, mais ça, avoir un champion aussi dominant dans sa catégorie qui décide de tenter des choses, bah, en fait, comme nous, on a l'inertie, tu vois, mentale, psychologique, comme il réussit tout dans sa catégorie, bah, notre cerveau est biaisé, il se dit bah, peut-être qu'il peut faire des trucs presque mystiques, presque magiques, tu vois, c'est-à-dire aller mettre KO ou dominer des mecs qui sont deux catégories au-dessus, parce que voilà, on a ce biais de se dire bah, vu qu'il maltraite aussi facilement les autres êtres humains qu'il y a là, pourquoi pas d'autres, tu vois, et pourquoi pas, pourquoi est-ce que ses capacités et ses compétences ne pourraient pas faire en sorte que quand il monte de deux catégories, bah, il arrive à battre des mecs même qui sont beaucoup plus lourds. Enfin, tu vois, ça fait travailler notre imaginaire, ça fait travailler un petit peu, ouais, c'est ça, nos capacités d'abstraction, et ce qui fait que on ne sait pas, c'est l'inconnu, mais s'il y arrive, on sait qu'on aura assisté à quelque chose d'incroyable, et c'est ce qui rend le sport aussi excitant, quoi.
Oh, wow, Big Rusty, hype is real. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 17% sur tous mes protéines, en plus des soldes avec le code de la sueur. Et puis nos savons, c'est sur onae.fr, H-O-N-A-E.fr. Le banger, le freezer est toujours disponible. Big Rusty, stay fresh, stay clean. See ya. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.